France Culture.
Allez, on embarque pour la suite des midis. À 13h, je recevrai la chorégraphe Germaine Acconi. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Jane Austen a 250 ans et pas une ride. L'autrice la plus contemporaine du 19e siècle ausculte la société anglaise avec ironie. Et derrière les bals et les mariages, Austen impose dans ses romans une liberté de ton qui déjoue les codes de son époque. Et force est de constater qu'aujourd'hui, son œuvre inspire de plus en plus la pop culture comme la recherche universitaire. L'engouement autour de Jane Austen, c'est le dossier du Point Culture du jour. Marie-Laure Masséi-Chamaillou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous commémorons en 2025 le 250e anniversaire de la naissance de Jane Austen. Alors en Angleterre, de nombreuses festivités sont prévues, elles ont d'ailleurs déjà commencé. Le journal The Observer avait même titré pour lancer les commémorations Jane Austen et des nôtres. C'est peu dire que la romancière est toujours dans le cœur de ses lecteurs. Comment expliquez-vous cet attrait toujours renouvelé pour sa littérature ?
Alors, Jane Austen, il est vrai, n'a jamais semblé aussi vivante. Là, d'ailleurs, mon amie Claire Saïm est en ce moment même à Bath, au festival, en costume, où elle assiste à toutes les festivités. Donc, elles ont l'air de passer un moment absolument inoubliable. Mais si Jane Austen est aussi vivante, c'est parce que maintenant, il y a tout un imaginaire presque fantasmatique qui est associé à son œuvre. Et son œuvre est devenue rhizomatique tant elle se déploie dans différentes dimensions, que ce soit le cinéma, le tourisme littéraire, la patrimonialisation. Et puis, Jane Austen est presque devenue la meilleure scénariste de Hollywood et même de Bollywood. Donc, on voit qu'il y a un déploiement de son œuvre dans divers univers et des univers finalement bien éloignés du milieu et du moment où son œuvre a été créée.
Mais alors comment vous pourriez le définir cet imaginaire ? Et quand je vous écoute, je me demande si finalement c'est pas plus cet imaginaire qui perdure que la lecture même de ces livres. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui quand même les gens continuent à la lire ou bien ce sont les histoires en effet à travers les séries ou le cinéma qui sont les plus vivaces ?
Alors ça c'est quand même un problème parce que il y a eu toute une passion pour ces romans jusqu'au moment où ils ont été portés à l'écran parce que on voit au XIXe siècle tout un processus de canonisation de son œuvre qui est lu par des hommes d'ailleurs, par les hommes politiques, par des critiques littéraires. Et on voit un processus de canonisation qui donne même lieu à un culte vers la fin du XIXe siècle. Mais depuis qu'il y a eu ces adaptations audiovisuelles et notamment la fameuse série de 1995 qui a été diffusée sur la BBC, on voit un risque d'arlequinisation de son œuvre, puisque bon, on sait que pour des facilités, c'est plutôt l'histoire d'amour qui est mise en avant, que toutes les nuances qui sont dans les romans, toutes les nuances inhérentes à son style, à l'ironie. Et ça, c'est quand même assez difficilement transposable à l'écran. Et donc, il est vrai que pour la jeune génération, elle n'est peut-être découverte que par l'image et ses représentations à l'écran risquent de faire écran, effectivement, à un processus d'interprétation de ses romans et à une redécouverte de la lecture. Donc ça peut être effectivement un problème.
Alors, puisqu'on parle du fond de ces livres et notamment de ces romans, certains y lisent des romans féministes, dans le sens où Jane Austen décrit la condition des femmes de son temps. Est-ce un biais de notre époque ou bien est-ce que ces écrits portent-ils réellement une portée féministe selon vous ?
Alors, le mot féminisme, là, il serait quand même un peu anachronique puisque selon le dictionnaire de référence l'Oxford English Dictionary, le mot féminisme n'apparaît qu'en 1851 et l'adjectif féministe en 1880, donc au moment de la naissance du mouvement des suffragettes. Donc Jane Austen, c'est bien antérieur. Et puis, elle n'a pas les mêmes revendications que sa consœur Mary Wollstonecraft, qui, elle, écrit une défense du droit de la femme, où là, elle émet des revendications très précises en termes d'égalité.
Oui, ce que Jane Austen ne fait pas dans ses romans.
Ce que Jane Austen ne fait pas parce qu'elle n'est pas dans le même genre. Elle est dans le genre romanesque, Et le roman, alors elle en comprend tout à fait la portée et la puissance hein, en termes de représentation. Donc elle comprend que c'est un médium qui est exceptionnel en termes de représentation, c'est un vecteur culturel, et elle va utiliser le roman pour poser des questions en montrant simplement à quel point les femmes sont empêchées par leurs conditions, par l'organisation de la société, empêchées d'accéder à l'argent, d'accéder à l'indépendance. Donc elle pose des questions dans ses romans et elle montre des héroïnes qui ont le courage quand même de dire non. Ce que fait Elizabeth Bennet avec deux demandes en mariage, ce que fait aussi Fanny Price dans Mansfield Park, qui ose dire non, et pour les femmes à l'époque, articuler ce non, c'était déjà une belle preuve de courage et de résistance face à la société.
Mais c'est aussi ce qu'a fait Jane Austen, d'ailleurs, elle-même dans sa vie. Elle a refusé le mariage.
Oui, elle a refusé le mariage. Alors, est-ce qu'elle a refusé le mariage parce qu'elle avait vécu juste avant une belle histoire d'amour qui lui avait vraiment montré ce que c'était que d'aimer et de souffrir? Mais il est vrai qu'elle aurait pu, en 1802, accepter la proposition de son ami d'enfance, et puis qui était surtout l'ami, enfin le frère de ses deux, trois grandes amies qu'elle avait côtoyées pendant toute son adolescence à Steventon dans le Hampshire. Donc ce mariage-là aurait pu lui permettre de quitter Bath, qu'elle n'aimait pas forcément, pour revenir s'installer à la campagne et être à la tête d'un domaine, alors certes pas dans les mêmes proportions qu'Elizabeth Bennet, mais un domaine familial ancré dans une économie rurale, et elle a refusé simplement parce qu'elle n'aimait pas suffisamment Harris Bigwether, en tout cas pour devenir sa femme, et puis je pense qu'elle a préféré l'écriture romanesque au fait de devenir une épouse et une mère de famille, mais c'était sa dernière chance de devenir mère, donc le choix a dû être vraiment cornélien.
Dernière question pour revenir sur la littérature. Est-ce que vous diriez qu'elle a inventé le roman psychologique ? C'est ce qu'on entend parfois concernant Jane Austen.
Alors, elle est héritière d'un genre qui n'arrête pas de se renouveler tout au long du XVIIIe siècle. Si on regarde l'histoire du roman, ça commence avec Daniel Defoe, Robinson Crusoe en 1719. Puis il y a les magnifiques romans, les grands romans épistolaires de Richardson avec Pamela ou La vertu récompensée. Et là, il y a de très fines analyses psychologiques. Elle aime beaucoup l'ironie aussi de Fielding, qui permet aussi d'avoir des nuances un petit peu plus fines hein, en termes d'analyse psychologique. Mais elle s'inscrit dans une autre lignée, une lignée de femmes, à la suite de Frances Burney et puis de Maria Edgeworth, qui, elles, vraiment rendent au roman ses lettres de noblesse, parce qu'il y a toute une période où le roman gothique tombe dans certaines facilités. Et le but de ces trois romancières, donc Frances Burney, Maria Edgeworth et Jane Austen, c'est de remettre le roman à l'honneur, de lui redonner ses lettres de noblesse.
Bien, merci beaucoup. Je crois que vous nous avez donné très envie de relire Jane Austen. Merci beaucoup,
oui,
Marie-Laure
Massé-Chamaillou.
Voilà, il faut la relire. Merci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, c'est un film iranien qui représentera la France aux Oscars.
Oui, le CNC a annoncé que le film du réalisateur iranien Jafar Panahi, Un simple accident, Palme d'or du dernier festival de Cannes, porterait les couleurs de la France aux prochains Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Le film a en effet été coproduit par la France et a été subventionné par le CNC à travers l'aide au cinéma du monde. La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars prochain à Los Angeles.
L'Académie Fratellini, dédiée aux arts du cirque, évidemment, s'apprête à rouvrir ses portes à Saint-Denis.
Oui, il était fermé au public depuis 3 ans pour travaux. Le site est un des hauts lieux de la création circassienne en France. Il regroupe à la fois une école supérieure, une école amateur, mais il est aussi un espace de création et de diffusion de spectacles. L'Académie ouvrira à partir du samedi 4 octobre, à l'occasion d'un week-end inaugural festif, durant lequel une 60aine d'artistes investiront le site.
Et pour finir, Marie, le festival Actoral bat son plein à Marseille.
Depuis le 13 septembre, le festival dédié aux écritures contemporaines fête cette année sa 25e édition. L'an passé, l'événement avait été fragilisé par la perte du site de Montevideo, épicentre du festival. Mais Actoral investit à présent un nouveau lieu, le couvent de la Caumerie, qui vient de rouvrir après 4 années de travaux. Le festival continue, lui, de proposer une programmation éclectique avec du théâtre, bien sûr, mais aussi de la danse, de la performance, du cinéma, de la littérature. littérature ou encore de la musique. Cette année, plus de 200 artistes sont attendus à Marseille jusqu'au 11 octobre prochain.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
À demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h dans quelques secondes et vous écoutez les Midis de Culture.